troisième édition de la FIAC à Paris.
Oui, plus de 180 galeries exposent jusqu'à dimanche soir. Il y en a pour tous les prix.
Oui, le moins cher à la FIAC, c'est cette boîte de vache qui rit. 5 euros, un collector tiré à 2000 exemplaires. Seule différence avec celle du commerce, sur le couvercle, tout est écrit à l'envers. Une œuvre très pop, on pense à Andy Warhol. En tout cas, à ce prix-là, ça part comme des petits pains.
Pour un de mes amis qui collectionne les boîtes de vache qui rit. Donc hyper pointu, hyper tendance. C'est un clin d'œil. Moi, j'aime m'amuser.
C'est de l'art, ça, pour vous ?
Oui.
Mais oui, c'est de l'art. L'art et le marché. L'actualité des idées dans la dernière partie de la grande table. Une question, un point de vue. Quelle place pour l'artiste dans le monde de la création ? Elle devrait être centrale, sauf qu'elle est polluée de nos jours par l'économie du milieu, obligeant les artistes à se battre pour rester l'énergie motrice de l'univers artistique. Invité aujourd'hui, l'historien d'art Paul Ardenne, également commissaire d'exposition, écrivain, tout naturellement spécialisé dans l'art contemporain, qu'il enseigne à l'université d'Amiens. Ce partisan résolu de la complexité, comme il aime à se présenter, est déjà l'auteur de L'image corps, de Extrême, esthétique de la limite dépassée sur les représentations du pire, ou encore de Art, l'âge contemporain, une forme d'état des lieux de la création artistique à la fin du XXe siècle. Dans cette lignée, il publie aujourd'hui Heureux les créateurs, l'art à l'âge postmoderne, ses amis, ses faux amis et ses ennemis aux éditions Le Bord de l'eau. Un recueil d'articles publiés dans des revues spécialisées, des articles aussi issus de conférences, où il constate, Paul Ardenne, en observateur avisé et en théoricien de l'art, que l'artiste n'est plus seul à créer. Désormais, une myriade de spécialistes, agents, critiques d'art, des galeristes, des collectionneurs, l'entourent et influencent son œuvre. Ces interdépendances sont-elles dès lors un obstacle ou un progrès pour la création ? On va en parler ensemble jusqu'à 13h30. Paul Ardenne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pourquoi vous intéressez aujourd'hui au bien-être des créateurs ?
Alors c'est pas nouveau, ça fait très longtemps que je m'y intéresse, étant entendu que pour moi, l'art, la création, c'est d'abord les personnes qui la font, indéniablement. Et avant que ce soit les personnes qui médiatisent cette création, qui la valorisent, qui la marchandisent, selon on pourrait dire un ensemble d'activités connexes à la création qui finit parfois par, je dirais pas prendre le dessus sur elle, mais en tout cas peut-être l'orienter ou lui donner une certaine tonalité. On a beaucoup parlé de ces dernières années, depuis 20 ans, de la question de l'institutionnalisation de l'art, la question de l'importance du marché, du milieu aussi. Donc c'est les fameux 3 M, hein, marché, milieu, musée. La question des médias, on pourrait aussi rajouter un 4e M, hein, marché, milieu, musée, médias, avec une conséquence très palpable pour les observateurs. C'est le fait que les artistes étaient de plus en plus, je dirais pas sommés de participer à cet ensemble, de s'intégrer en lui, mais en tout cas, il y avait une sorte de sollicitation, si vous voulez, qui faisait que, loin que la création soit, on pourrait dire, une aventure de soi, un travail sur soi, une représentation, on pourrait dire, du monde qui se traduit par des formes esthétiques, des formes poétiques, ça devenait bien souvent, de plus en plus, en tendance, la réponse à une demande, à une sorte de demande publique, une demande collective, qui pouvait être marchande, qui était en général fondée sur l'opinion, la construction d'une opinion, souvent consensuelle, évidemment, avec, on l'a vu bientôt, de puissants agents, hein, qui étaient les agents du marché en particulier, ou les agents même de la critique, les uns travaillant souvent avec les autres. Donc, bon, j'avoue que ce qui m'intéresse dans l'art, ce ne sont pas les mécanismes de médiation, ce ne sont pas sa sociologie, les études qu'on peut faire sur les classements d'artistes, puisqu'on aime beaucoup ça, les palmarès, etc., les fameuses listes, hein, puisque beaucoup de gens sont sans cesse à regarder les listes, hein, en disant où est l'artiste que j'achète, etc., ou celui que j'aime. C'est pas du tout ça qui m'intéresse.
C'est
moi, ça a
lui-même.
Toujours été la création même, et l'artiste comme sa propre institution. C'est-à-dire, je pars toujours d'une formule de Gustave Courbet qui m'a beaucoup passionné, qui était un artiste, comme vous savez, très engagé au 19e siècle, à la fois engagé dans sa peinture et engagé dans la politique du temps. Vous savez qu'il a été employé par la Commune, hein, donc à un poste politique, et il avait demandé la destruction de la colonne Vendôme, hein, comme symbole du bonapartisme, donc, et de, on pourrait dire, de son despotisme. Et il a dû d'ailleurs, il a été condamné après la Commune, il a dû trouver de l'argent, payer pour la reconstruction de la colonne Vendôme à Paris. Mais Courbet disait « je suis mon propre gouvernement ». Et je pense que c'est à ça qu'il faudrait revenir, c'est-à-dire à ce que les créateurs puissent de nouveau être leur propre gouvernement.
Alors c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise de cette démocratie artistique ou de ce régime gouvernemental créatif, quelque part à vous lire. C'est effectivement le point de vue paradoxe que vous développez dans ce recueil essai, le créateur mal en point dans un marché de l'art contemporain qui, lui, ne s'est jamais aussi bien porté, finalement.
Oui, alors le marché, c'est évidemment fondamental. Il ne faut pas avoir le mépris du marché, sûrement pas le mépris de l'argent.
Parce que le marché fait vivre l'artiste,
bien
quand
sûr,
même.
Bien évidemment. Enfin, ça fait vivre beaucoup de gens autour de l'artiste aussi, lui aussi, mais pas seulement lui. Mais bon, c'est une nécessité absolue. Je pense que bien des artistes n'ont pu travailler dans de bonnes conditions que parce qu'il y avait de l'argent, que parce qu'il y avait une production, une demande de production, que parce qu'ils avaient la certitude qu'en vente publique, par exemple, leurs travaux pourraient les rémunérer, en quelque sorte, des frais engagés. Il ne faut jamais oublier de rappeler que, par exemple, Guernica est une commande de la République espagnole en 1937, et que Picasso, je ne sais pas s'il aurait peint ce tableau sans ça, mais le fait est que cette commande, là, particulièrement, on pourrait dire dopé, puisque bon, on connaît l'histoire, il s'est mis à travailler jour et nuit pendant des semaines, on voit la progression de ce tableau, et d'une certaine manière, la demande ici a créé l'œuvre, ou en tout cas, elle a permis son existence. Il ne s'agit pas d'être contre l'argent, il s'agit simplement de ne pas se tromper. C'est-à-dire que on voit comment graduellement, c'est assez net, depuis les années 80, avec le développement de ce qu'on a appelé alors le hype market, le marché hyperbolique, bon, qui depuis a connu des accidents, des hauts et des bas. Il y a eu une crise fin 90, 92. Bon, ça a repris de nouveau des crises.
C'est
bon,
quoi le hype market?
Marché hyperbolique. Oui, mais... C'est un terme qui avait été créé par une sociologue de l'art, très, très, très importante d'ailleurs, dans la réflexion sur justement la manière dont se construit la valeur, c'est-à-dire à la fois la valeur symbolique, la valeur esthétique et poétique, la valeur marchande. Bien sûr, la valeur politique même d'une œuvre d'art, qui était Raymond de Moulin, donc, qui a consacré une grande partie de sa vie à réfléchir sur l'art, l'institution et le marché. Et en disant ça, je reprends le titre de son grand livre qu'elle a publié au début des années 90, il y a une petite vingtaine d'années. Donc, le marché, au fond, c'est quelque chose qui est relativement trompeur, parce qu'il ne faut jamais, jamais perdre de vue que si ça aide l'art à fonctionner, en aucune manière il faudrait que ça détermine la création au-delà de ce qui serait le désir de l'artiste lui-même, au-delà de ce que serait sa propre volonté. Et ce n'est pas, je pense, le cas, ce n'est plus le cas.
Question de Bruno Kellen, qui est avec moi jusqu'à oui. 13h30.
Fin décembre, la Grande Table était en direct de Moscou, et parmi les invités, il y avait une responsable d'une galerie, et elle présentait Moscou comme une place, un petit peu comme on parle d'une place boursière et qui sera en concurrence avec d'autres. Elle disait, oui, vous savez, le marché à Moscou, il est aussi intéressant, on ne le connaît pas assez. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a comme ça des villes, des marchés en concurrence, comme on pourrait dire des places boursières?
C'est une galeriste moscovite. Hein.
Oui, c'est absolument incontestable. Bon, on est là dans une logique capitaliste. Hein. De toute façon, le marché de l'art est un marché. Comme celui des... Enfin, j'ai donné une interview une fois, j'ai dit, au fond, c'est comme le marché des fleurs. Si le gerbera a une très grosse cote, eh bien, le prix va monter, la demande va s'intensifier. Bien évidemment, alors, il y a une géographie des foires, avec, bien sûr, les foires reines, la première étant la Art Basel de Bâle, qui essaime, elle essaime donc en Suisse, donc aux États-Unis, à Miami, elle essaime en Chine. Vous avez bien sûr les foires américaines, la grande foire de New York et beaucoup d'autres, puis les foires chinoises aussi. En fait, l'Angleterre, bon, juste une semaine avant la FIAC d'ailleurs, ce qui est pas un hasard, la FIAC qui reste une très grande foire au niveau international. Et puis vous avez le second marché, hein, bien évidemment, vous avez les ventes publiques où on enregistre souvent les résultats les plus spectaculaires, puisque on est dans une sorte de concurrence agonistique. Mais je pense qu'il faudrait peut-être redéplacer la problématique de notre entretien sur autre chose que le marché. C'est-à-dire, au fond, un marché, c'est un lieu où se construisent des valeurs, et quand elles s'appliquent à des objets symboliques comme les œuvres d'art, bien évidemment, on peut pas en comment dire, en juger de l'utilité de ces objets. C'est pas comme, je sais pas, si vous cherchez une automobile puissante, sur le marché, vous allez avoir une gamme relativement limitée. Alors qu'en ce qui concerne l'art contemporain, vous avez au contraire une gamme infinie. Vous avez une production infinie, vous avez des milliers, des dizaines de milliers d'artistes au travail. Et un problème qui est celui de l'évaluation de l'œuvre sur le plan critique, sur le plan théorique. Donc, le problème de l'évaluation de la valeur. Alors, à partir de là, si vous voulez, il faut faire... Faut se méfier. Le marché n'est jamais un indicateur de la valeur réelle d'une œuvre d'art, de sa valeur symbolique, de sa valeur, on pourrait dire, historique. Si vous la replacez dans un courant qui est l'histoire de l'art, par exemple, qui vous ferait dire, si on parlait de musique, par exemple, quelqu'un qui fait du Mozart aujourd'hui peut être un très grand musicien, mais il vaut mieux préférer l'original à la copie, d'une certaine façon. C'est-à-dire quelqu'un qui fait du Rodin, je dirais aujourd'hui, ou du Michel-Ange, c'est très bien, mais il vaut mieux préférer Rodin ou Michel-Ange. Donc je pense que il faut laisser le marché. Faut jamais, au fond, s'énerver sur cette question du marché qui focalise beaucoup les médias, l'attention des médias, c'est vrai, et qui en arrive à donner de l'art contemporain une image complètement fausse. Et là, il faut rappeler quand même que bien souvent, les journalistes que vous êtes ne font pas bien leur travail. Je parle pas de France Culture spécialement, mais il y a toujours une tendance à s'accrocher à ce qui fait l'événement. Le scoop toujours, la très haute valeur, brusquement telle œuvre de tel artiste atteint un sommet, c'est formidable. Sans jamais regarder la qualité de l'œuvre, sans jamais regarder ce qu'elle est, ce qu'elle dit, ce qu'elle signifie. Bon, juste parce qu'il y a un engouement, il y a une mode, il y a un effet spéculatif, si vous voulez, qui fait qu'à un moment donné, telle œuvre, tel artiste va voir sa cote grimper. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est comment on construit une valeur plutôt, à partir de quoi, si vous voulez.
Bon. Non, on entend bien juste votre remarque et de l'importance de revenir à l'œuvre.
Bien sûr.
En effet, à France Culture,
et à la création,
on laisse largement cette place-là. Oui. Et hier encore, d'ailleurs, je vous recommande de réécouter l'entretien. On recevait Jean-Luc Moulin qui nous parlait de sa rétrospective en cours en ce moment au Centre Pompidou. On a parlé œuvre-œuvre et c'est vrai que j'ai oublié de lui demander combien valaient ses œuvres. C'est une question que j'aurais pu poser sur cet os mauve qui m'a particulièrement intriguée, qu'il expose actuellement. Mais plus sérieusement, pour en revenir à notre
c'est
sujet,
c'est très sérieux.
C'est très sérieux. Non, mais... Quittons le marché, mais allons quand même sur la question de la globalisation. C'est ce qu'évoque aussi Bruno Cadenne dans la question qu'il vient de vous poser. Vous lui consacrez, vous, un chapitre de cet ouvrage, voire plus large, la globalisation et ses effets poético-esthétiques. C'est vrai que sur le modèle du Guggenheim, que vous dénoncez quelque part un peu les dérives de l'impérialisme muséal par son expansionnisme, extension là de Guggenheim de Berlin à Bilbao jusqu'à l'Asie bientôt et le golfe arabo-persique. On a le Louvre à Abu Dhabi qui devrait pas tarder à ouvrir. Cette globalisation artistique, qu'est-ce qu'elle cache? En fait, ce n'est pas un monde multipolaire de l'art, mais une sorte de tutelle artistique de l'Occident sur l'art, une vision unique. C'est ça aussi qui abîme la création et le créateur aujourd'hui.
Alors c'est évidemment très complexe. Alors cette globalisation, j'ai la chance, pour avoir longtemps, enfin et encore travaillé pour une revue qui est Art Press en France, j'ai eu la chance de couvrir un très grand nombre de biennales justement de par le monde pendant une vingtaine d'années. C'est-à-dire entre les années 90 et les années 2010. Bon, et même encore, je voyage beaucoup. C'était très intéressant de voir comment le système se construisait progressivement. C'est-à-dire que assez nettement avant Internet, il faut quand même le dire, on a des marchés qui sont des marchés nationaux, notamment pour les valeurs contemporaines, et des marchés internationaux pour ce qu'on va appeler le moderne classique, c'est-à-dire des œuvres déjà reconnues, qui sont glosées, qui sont, on pourrait dire d'un mot un peu inélégant, historicisées. Bon. Et progressivement, on voit qu'avec la construction donc de la globalisation, on voit comment tout le système de l'art commence à se répandre, à se disséminer, à se structurer à partir de grands pôles qui sont les États-Unis d'Amérique, bien sûr, l'Angleterre aussi, l'Allemagne, toujours très discrète mais toujours très efficace, la France beaucoup moins, de fait, mais malgré tout, à travers le réseau des instituts français, par exemple, qui est très très dynamique, et on voit comment progressivement une nouvelle donne va se constituer d'une manière très 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 curieuse, c'est-à-dire que dans un premier temps, les décideurs, les prescripteurs, ce qu'on appelle les pays prescripteurs, ceux qui donnent la loi à travers de grandes revues d'art, de grandes expositions, de grandes structures institutionnelles avec des personnels très compétents, vont s'intéresser très fortement à tout l'art qui n'est pas occidental, qu'on appelle noccidental, l'art noccidental, sur les années 90, qui font que tout d'un coup, vous n'avez plus que des expositions en France d'artistes thaïlandais qui viennent d'Amérique latine. Voilà. Et dans un second mouvement, vous avez comme une sorte de réponse, un retour de flamme doux, qui fait que finalement ce sont les valeurs élues par ces grandes structures qui reviennent s'imposer en quelque sorte au niveau du monde. Alors le schéma de la multipolarité qui en politique avait été particulièrement bien perçu, je pense par Jacques Chirac, n'a pas du tout cours dans le monde de l'art contemporain. En réalité, c'est un monde où coexiste un très grand nombre de petits marchés nationaux, on va dire, qui sont des marchés donc d'amis, de connaissances, de relations, de véritables collectionneurs, d'authentiques collectionneurs par le goût. Et à côté de ça, vous avez les grands marchés structurés autour de très grandes foires, autour de très grands noms, autour de listes, bien sûr, qu'adorent les sociologues, bien évidemment, et à partir desquelles ils peuvent établir, comme l'a fait Alain Quemin, d'ailleurs le sociologue français très brillamment, le recul français, incontestablement. Bon, je crois qu'il est incontestable.
Que vous actez également. Hein. La oui, sagesse serait plutôt d'admettre que la France est à présent une nation parmi d'autres, une puissance de second ordre en voie de graduelle déqualification planétaire dont il est probable qu'elle n'a rien de plus intéressant à dire du monde que telle ou telle nation lambda, et qu'il est donc temps en conséquence qu'elle cesse de chercher une position de leadership. Et on sait que l'art est aussi un outil de soft power.
Hein. Oui, bien sûr. Alors attention, le fait qu'on n'ait plus de représentation au niveau mondial importante dans ce domaine qui serait l'art contemporain, ne veut pas dire que ce qui est produit en France, ce qui est créé, est pas bon. C'est absolument l'inverse, j'ai envie de dire. On a l'art français est un des plus importants qui soit, des plus intéressants, des plus, on pourrait dire, en pointe par rapport à toutes les problématiques esthétiques, politiques ou autres qui ont cours. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'il soit bien défendu, en particulier par l'institution.
Il est commissaire d'exposition, il est journaliste, il est historien d'art, il est essayiste. Paul Ardel est notre invité ce midi pour Heureux les créateurs, qui vient de paraître aux éditions Le Bord de l'eau.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Pas du tout. Non, ça, je ne contrôle pas ça du tout. Et heureusement, vous imaginez le temps que ça me prendrait. Non, je délègue à des marchands le pouvoir, entre guillemets, de les vendre. Et en général, je choisis des marchands qui ont un peu de discernement.
Bertrand Lavier, qui répondait à la question de
excellent
savoir.
Excellent artiste. Hein. Ouais, artiste. S'il était, ce que je dis toujours, si Bertrand Lavier avait
laissez-moi
été
laissez-moi finir ma phrase. Il répondait juste à la question de savoir s'il suivait son œuvre une fois vendue. Oui, donc allez-y, Bertrand Lavier.
Non, je disais que si cet artiste, au fond, avait pu bénéficier d'une représentativité plus soutenue, eh bien, il serait sans doute aussi célèbre et aussi riche que Jeff Koons. Dans son cas, ce serait mérité.
Mais alors, vous lui souhaitez
comment?
Vous lui souhaitez,
ah ben,
finalement.
Bien sûr,
mais vous ne pensez pas qu'il en perdrait toute sa créativité?
Pas du tout.
Non. Il y en a quand même qui arrivent à se préserver des effets du méchant marché, dont on ne va pas parler tout de suite. Là où il ne devrait y avoir que de l'amitié, vous décrivez des relations de pouvoir économique et symbolique aussi. Hein. L'artiste décideur hier, artiste outil aujourd'hui, serviteur ou tâche du système, hein, finalement, quelque part. C'est aussi
alors,
l'objet
bien
de
sûr.
Tâche.
Alors, c'est pas vrai pour tous. Bien évidemment, on peut considérer quelqu'un qui décide de s'engager dans un processus créatif le fait parce qu'il est régi par ce que Kandinsky appelait très justement la nécessité intérieure. Et que donc, si le monde produit sur lui des effets qui peuvent gauchir à la limite sa création, je ne pense pas qu'ils peuvent la modifier complètement, qu'ils peuvent en déterminer l'essence. Donc je ne suis pas très inquiet, si vous voulez. Je pense qu'il existe aujourd'hui encore des Gaston Chessac, des facteurs cheval, si vous voulez, des gens qui, non pas sont complètement coupés de la réalité, mais qui sont investis par un projet tellement obsessionnel que finalement, tout ce qui relève du marché, de l'institution, de la reconnaissance, on pourrait dire, de la validation critique, tout ça ne les intéresse pas, très très peu.
Mais vous dites quand même que tous ces grands intermédiaires, toutes ces grandes institutions aussi, musées, centres d'art, foires, toutes ces institutions finalement en charge de l'art, ont moins l'art en vue que leur propre survie, et quelque part, leurs intérêts pèsent sur une notion, un point central pour vous de la figure de l'artiste aujourd'hui, dans ce qu'est-ce qu'être artiste, c'est la liberté, une liberté sous contrainte forcément, mais qui perd la liberté gagne l'œuvre. Rappelez-vous, et il y a quand même de ça aujourd'hui. Quelqu'un a pris le contrôle de l'artiste. Alors qui l'institution qu'il maintient sous perfusion, le mécène, cet ami qui normalement devrait lui vouloir du bien.
Moi, je pense que personne n'a pris stricto sensu le contrôle de l'artiste. Je dirais que c'est plutôt un certain nombre d'artistes qui ont accepté d'entretenir un rapport avec les structures, en quelque sorte, du monde de l'art contemporain. Donc, entretenir un rapport qui est un rapport de suggestion. On pourrait plutôt parler de servitude consentie, si vous voulez, ou d'alignement sur les grandes idées, les grands propos, les grandes thématiques. Bon, si on prend un artiste comme Ai Weiwei, par exemple, très à la mode, l'artiste chinois, bon, mondialisé, etc., bon, dont une grande partie des œuvres n'a plus aucun intérêt au regard de l'histoire de l'art ou de l'histoire de la performance ou de la sculpture depuis très longtemps.
C'est
quelqu'un qui récemment se fait prendre en photo le long d'une plage, allongé comme un migrant moribond. Voilà, bon, on a envie de se dire, si ça, ce n'est pas d'une certaine manière une forme d'art prostitutionnel, hein, qui en appelle immédiatement à la célébration médiatique la plus facile qui soit, qu'est-ce que c'est ? Bon, alors, bien évidemment, le problème aujourd'hui des artistes, c'est cette servitude consentie. Pas de tous les artistes, vous en avez qui vivent très bien, et je voudrais rappeler ce qui se passe aujourd'hui, très intéressant, c'est que par rapport à cette espèce d'énorme monolithe institutionnel, bon, qui contrôle le champ de l'exposition, par exemple, de la construction de la valeur artistique, de l'édition d'art, etc. Ces grandes institutions sont en France, aux États-Unis, bon, qui sont liées d'ailleurs entre elles, hein, avec des systèmes d'exposition qui circulent, hein, voilà, des systèmes d'itinérance, bon, ce qui crée une sorte d'unification, d'homogénéisation du champ artistique d'une certaine façon et de ses représentations. À côté de ça, aujourd'hui, on voit un élément important, identique à ce qui s'est passé dans les années 80, de plus en plus d'artistes créent des structures artistiques. Par exemple, regardez à Paris, Kader Attia a créé La Colonie, Beatrice Caracciolo a créé La Fontiera, hein, c'est tout nouveau, Franck Perrin a créé l'Espace Visconti, et c'est très intéressant, ce sont des artistes, non pas qui se désintéressent de ce que l'institution artistique, les grands musées, les centres d'art, par exemple, officiels proposent, mais qui se disent, nous n'avons de toute façon aucun espoir à attendre de ce côté-là. C'est très exactement ce qui s'était passé dans les années 80, notamment d'abord en Angleterre, puis en Italie, quand, avec le renouveau libéral, les Reaganomics, eh bien, progressivement, on avait supprimé les subventions au monde de l'art et notamment aux structures artistiques, ce qui fait que comme les structures artistiques institutionnelles ne pouvaient plus exposer, ou beaucoup moins, les artistes eux-mêmes avaient créé leurs propres structures. Alors c'est un mouvement intéressant, moi j'avais donné un nom, c'est le mouvement qu'on peut appeler semi-périphérique. Ce n'est pas le centre, l'institution, ces structures d'art, donc la périphérie, c'est plutôt une semi-périphérie, c'est-à-dire que bon, on se connaît, on peut travailler ensemble, on peut passer d'un espace à l'autre, mais on veut garder sa liberté, en tout cas du côté des artistes.
Bruno Cadel.
Et quel est le rôle dans cette servitude consentie des écoles d'art ? Parce qu'elles aussi, elles mettent en avant les classements, alors qu'elles devraient normalement essayer de faire émerger des talents.
Alors, il y a une chose qu'on peut dire, quelle est la fonction d'une école d'art ? Moi j'enseigne dans une faculté des arts, donc à Amiens, on est bien d'accord, nous n'enseignons pas à des artistes, nous enseignons des techniques artistiques.
C'est donc, comme pour le journalisme finalement.
Voilà, non mais voilà, donc je pense que c'est aisé à comprendre. Il faut faire attention aux malentendus. Il est certain qu'on ne crée pas des artistes, mais par contre, si quelqu'un vient dans une unité artistique comme celle de l'UFR Art d'Amiens, par exemple, eh bien, quand il en ressortira, ben, il aura eu des cours de peinture, de modelage, de bande dessinée, de morphing, etc., etc. Bon, alors pour les écoles d'art stricto sensu, qui dépendent du ministère en France de la Culture et non pas du ministère de l'Éducation nationale, comme les UFR, c'est différent et il y a énormément de polémiques. Il y a énormément de polémiques sur le fait que c'est un un enseignement qui n'est pas assez rigoriste, qui n'est pas assez académique et qui est trop ouvert à, bon, à la libre créativité. Alors certains l'accusent d'entraîner les étudiants vers des formes d'art très, très expérimentales, conceptuelles, etc. Bon, je ne pense pas que ce soit absolument vrai, je ne pense pas que ce soit un mauvais procès. Je dis simplement que c'est quelque chose d'insoluble, la question de l'enseignement de l'art. C'est très complexe.
Vous avez évoqué ces mouvements de créateurs qui reprennent aussi les circuits de la, non pas de la création, mais aussi de la distribution ou de la présentation des œuvres à leur propre compte. C'est le cas notamment de Kader Attia avec La Colonie, où il expose d'autres artistes proches de lui. On n'a pas parlé des grands mécènes ou des grandes fondations. Vous l'évoquez dans la conclusion de votre ouvrage, la Fondation Pinault, qui devrait ouvrir comme nouveau musée d'art contemporain dans l'ancienne Bourse du commerce de Paris fin 2018, une autre enseigne culturelle telle que vous l'évoquez. Vous n'applaudissez pas du tout à ça. Vous parlez de la Pinault Line. Pour vous, ça va être encore une histoire de, d'art compassé, c'est ça, d'art rétréci.
Bon, il faut bien être d'accord. Les mécènes ont toujours existé. Ils ont toujours fait exister l'art et c'est très très bien. Qu'ils aient une puissante représentativité réelle, politique, symbolique. De fait, elle est là. Bon, la question, c'est peut-être le trop d'attention qui est portée à l'art qui est montré par ces structures, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que vous aurez toujours affaire ici à des formes d'art très consensuelles, très mondaines, au fond, qui renvoient à l'art plutôt compris comme un objet. Vous voyez, ça renvoie presque à la chose qu'on met sur la cheminée ou ce qu'on accroche sur le mur. Ce ne sont pas du tout des lieux d'expérimentation en aucune manière. Rien ne s'expérimente ici. Et ce qui est plutôt inquiétant, c'est la force de ces structures-là. Je pense à la Fondation Vuitton,
et ben justement,
par exemple.
Écoutez.
Les ambitions de Bernard Arnault sont claires. Faire de la Fondation Vuitton le lieu de la création contemporaine en Europe. Bernard Arnault veut que ça devienne un lieu de création. Des artistes vont être accueillis en résidence, tout frais payés, jusqu'à un an pour créer. Et le patron de LVMH lui-même va mettre à profit sa collection personnelle.
Est-ce que c'est pas triste que l'État ne puisse plus faire ça? De plus payer Stoutine et que ce soit Bernard
L'État peut certainement se le payer s'il met ça dans ses objectifs. Et le fait que des fondations privées permettent d'avoir des expositions exceptionnelles comme celle-là, je ne trouve pas ça triste, je trouve ça formidable. C'est quelque chose qui se passe aux États-Unis depuis de nombreuses années.
Voilà, extrait de Stupéfiant, le magazine culturel de France 2, sur le rôle qu'entend jouer la Fondation Louis Vuitton. Ben oui, mais en même temps, ces fondations,
ce privé pallie
aussi au retrait de l'État.
Oui, il est relatif.
L'État dont vous dénoncez quand même
la mainmise. Moi, je ne parlerai pas d'un retrait de l'État. Je pense que en France, l'État assume bien son rôle culturel. La question, c'est de savoir comment il l'assume. Et là, il y a beaucoup à dire. Et à bien des égards, il est très mal assumé. Avec des effets de collusion très forts, d'ailleurs, entre le public et le privé, qui sont absolument dérangeants, bien évidemment, sans développer un discours, d'ailleurs, anti-libéral. En ce qui concerne ces grandes fondations, moi, je ferai cette réflexion à partir de ce que disait, c'est Georges Bataille qui parle de ça à propos du potlatch. Vous savez, c'est cette énorme dépense qu'on faisait parfois, comme ça, pour donner quelque chose. Bon, que dit-il ? Il dit, certaines tribus donnaient tellement à leurs ennemis, y compris dans ces moments-là, que les ennemis en étaient subjugués et ils en étaient sidérés, ils ne pouvaient rien répondre. Je trouve que ces fondations, elles ont le même rôle, très, très ambigu. Elles donnent tellement que finalement, on ne peut quasiment plus que leur dire merci. Mais moi, je ne leur dis pas merci.
Merci beaucoup, voilà, Paul Ardenne. Moi, je vous le dis, heureux, les créateurs, artistes, encore un effort. C'est votre ouvrage, recueil de vos contributions qui vient de paraître aux éditions Le Bord de l'eau. Je ne sais pas si vous aimez les faits divers. Certains auditeurs de France Culture, pas, sont comme vous. Bienvenue. Place au rendez-vous du médiateur des antennes de Radio France, Bruno Denès, pour évoquer les faits divers dans la fabrique de l'histoire, auxquels la fabrique de l'histoire a laissé une large place cette semaine sur son antenne. Certains auditeurs n'affectionnent pas cela. Pas sur France Culture en tout cas.
La Grande Table. Le rendez-vous du médiateur.
Oui, bonjour Olivia Gesbert, bonjour à tous. En effet, des auditeurs m'interpellent régulièrement à propos de faits divers qui, disent-ils, n'ont pas leur place sur France Culture, que ce soit dans les journaux ou dans les émissions. Les faits divers ne sont pas dignes de votre radio, lance Jean. Et François ajoute « Préservez la trilogie à laquelle je tiens, ni pub, ni sport, ni faits divers ». Ça tombe bien, ou mal, dirais-je. Emmanuel Laurentin, vous avez consacré toute cette semaine votre fabrique de l'histoire à ces fameux faits divers. Emmanuel Laurentin, bonjour.
Bonjour Bruno Donas.
Alors commençons tout de suite par la définition de faits divers. C'est du jargon journalistique, finalement, dans lequel on met un peu de tout.
Exactement, et c'est d'ailleurs là-dessus que dans la fabrique de l'histoire de cette semaine, nous avons insisté, puisque les historiens qui travaillent sur ces questions de faits divers nous expliquent que le fait divers n'est pas un fait. C'est d'abord un fait social, c'est-à-dire c'est d'abord un fait médiatique. C'est la façon, alors on n'appelait pas ça les médias, dont au 19e siècle ou même au 18e siècle avec les, ce qu'on appelait les canards sanglants, c'est ce que Maurice Levers a évoqué sous le nom de canards sanglants, eh bien on racontait des crimes, on racontait des délits et on mettait en ordre la société. C'est un discours sur la mise en ordre du social, c'est-à-dire pour dire au bout du compte ce qui est licite, ce qui ne l'est pas, ce qui est tolérable, ce qui ne l'est pas, et c'est ce que nous avons essayé de montrer dans la série d'émissions de cette semaine.
Puis précisons aussi peut-être que d'ailleurs les faits divers, c'est parce qu'en fait on n'arrivait pas à les ranger dans la catégorie politique, sociale, économie ou autre. Alors est-ce que les faits divers finalement ne seraient pas dignes de France Culture comme nous le dit Jean ?
Alors je ne sais pas ce qu'entend Jean derrière cette question et cette catégorie du fait divers, et d'abord la place qu'il veut lui faire tenir dans une antenne comme la nôtre, parce qu'il y a évidemment les informations, les journaux, et dans les journaux effectivement les faits divers, lorsqu'ils disent quelque chose du social, lorsqu'ils disent quelque chose de la culture française à un moment donné ou de la culture d'un autre pays, peuvent être effectivement tout à fait révélateurs de quelque chose qui s'est passé dans cette société. Et puis on peut évidemment, c'est le principe de France Culture, passer au crible de la connaissance, des savoirs. Il y a des anthropologues, il y a des ethnologues, il y a des sociologues, il y a des historiens, des géographes qui travaillent sur cette question du fait divers, et notre travail c'est de leur donner justement la parole autour de ces questions-là.
Alors en effet, comme vous le disiez, ça peut révéler des pans entiers de société, d'ailleurs totalement méconnus de la plupart d'entre nous.
Souvent méconnus en l'occurrence, ils sont connus au moment de la flambée médiatique qui accompagne la révélation, par exemple. Mais effectivement, parce qu'il n'y a pas de faits divers sans révélation médiatique, sans discours autour de cette question-là, mais ils sont évidemment souvent oubliés et il faut que certains historiens, certains
vous avez des
chercheurs,
exemples
par exemple, nous recevions ce matin Yvan Jablonka, qui avec son Laetitia, qui a obtenu le prix Médicis, Laetitia ou la fin des hommes, a rappelé à la France de 2016 ce qu'avait été ce crime qui avait été commis en 2011 dans la région nantaise et qui, certes, avait tenu la une pendant de très nombreuses semaines, mais qui était un peu oublié aujourd'hui, et la place qu'on pouvait lui accorder comme étant un révélateur d'un certain rapport des hommes aux femmes, d'un certain rapport de la société aux jeunes filles dans la société d'aujourd'hui, de ce qu'était l'enfance placée, etc., dont il est le spécialiste.
Et également, d'ailleurs, un problème politique également, puisque notamment le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, s'était beaucoup impliqué dans cette affaire.
Effectivement, ça n'est pas pour rien, effectivement, que Yvan Jablonka, il nous l'a expliqué ce matin, a choisi ce fait divers. C'est aussi parce qu'il avait eu un écho politique avec Nicolas Sarkozy, qui était intervenu à deux, voire à trois reprises autour de cette disparition et de cette mort de cette jeune fille, Laetitia Perret, dans la région nantaise, pour pouvoir en tirer des leçons ou des bénéfices politiques au moment où il s'exprimait.
Alors d'ailleurs, cet exemple est vraiment intéressant parce qu'en fait, on pénètre en effet dans une réalité sociale à laquelle on n'est pas vraiment habitué avec, c'est vraiment une extrême pauvreté, la maltraitance, des foyers d'accueil, un père finalement de remplacement qui pratique des attouchements sexuels, etc., etc. C'est finalement des milieux qu'on ne connaît pas forcément très très bien.
Alors ça, normalement, quand on est journaliste, j'imagine, on devrait les connaître ou les approcher, ces milieux. Mais on s'aperçoit, et c'est ce que nous disait une autre de nos invités ce matin, Léonore Lequen, qui a travaillé sur un inceste ordinaire dans la région parisienne, dans la région de Meaux, qui s'était déroulé dans les années entre
donc
2000.
C'est un père qui a fait 6 enfants, je crois, à sa fille.
À sa fille, effectivement. Elle nous racontait effectivement qu'il était difficile de pénétrer dans certains milieux et que, par exemple, ces incestes, ils se déroulent aussi dans des milieux bourgeois, dans des milieux aristocratiques qui sont plus peut-être opaques que d'autres milieux, plus fermés. Et donc, effectivement, on ne traite pas de la même manière le fait divers lorsqu'il a lieu dans un milieu plus difficile, comme c'était le cas pour cet inceste ordinaire, ou dans un milieu plus favorisé. Et c'est justement cette difficulté de traiter le fait divers de la même manière qui peut-être aussi fait que nos auditeurs sont surpris parce qu'ils ont l'impression qu'on décrit peut-être toujours une France qui est toujours un peu la même, alors qu'effectivement, il y a aussi des faits divers qui se passent, mais peut-être sont-ils plus cachés, moins révélés dans d'autres milieux sociaux plus favorisés.
Alors sans vraiment vouloir être méchant, est-ce que, en fait, refuser de s'intéresser aux faits divers révélateurs d'une réalité sociale, c'est pas aussi vouloir continuer à vivre dans une petite bulle confortable table.
On peut dire ça, mais on peut dire aussi que peut-être si un certain travail journalistique était mieux mené, était moins urgent, peut-être aussi, on pourrait dire que le fait divers peut être traité avec beaucoup plus de distance, beaucoup moins de sensationnalisme qu'il ne l'est. Et peut-être aussi, ça pourrait réconcilier certains de nos auditeurs avec cette notion même de fait divers qu'ils semblent rejeter.
Alors en deux mots, pourquoi d'ailleurs la Fabrique de l'Histoire s'est-elle intéressée cette semaine aux faits divers ?
Parce que justement il y avait ce phénomène de Yvan Jablanca avec son Laetitia qui était un grand succès, mais aussi effectivement parce que les historiens et historiennes aujourd'hui travaillent beaucoup autour de ces questions-là et qu'il y a une nouvelle lecture, pourrait-on dire, de ces questions de faits divers vues au prisme justement de la naissance des médias modernes au XIXe siècle.
Merci Emmanuel Laurentin, on vous retrouve bien sûr tous les jours à 9h pour la Fabrique de l'Histoire.
Merci Bruno.
Et merci Bruno Denès, à vous sur franceculture.fr. Vous pouvez retrouver le rendez-vous du médiateur.